Française, français.
Et tout le monde, bonjour.
Le général de Gaulle est mort.
C'est pas la gauche, la France.
La France est veuve.
C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
En 1944, nous a conduit à la libération. Il a donné à la France actuelle ses institutions.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
Vous êtes à l'écoute de De Gaulle 2020, l'émission qui nous replonge dans les méandres de la personnalité complexe et tourmentée du général De Gaulle, de son histoire singulière, qui est aussi la nôtre, puisque De Gaulle prétendait être la France, prétention dont au fond, nous avons avec le recul de l'histoire accepté l'augure. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste, disait-on de son vivant. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les forces politiques du moins, s'inclinent devant sa statue. Mais qu'est-ce qui, en 2020, nous relie encore au général 50 ans après sa mort? Eh bien, c'est ce que nous explorons chaque dimanche de l'été.
De Gaulle 2020.
C'est lui qui a dit « Tout le monde est, a été ou sera gaulliste », n'est-ce pas?
Thomas Legrand, sur France Inter.
Si un journaliste de la télévision ou de la radio présente les informations d'une manière désagréable au gouvernement, vous le mettez au placard. L'autorité que vous détenez par la loi doit vous permettre de mettre la RTF sur les rails, alors qu'elle déraille en permanence.
Lus par Eric Oswald, ces mots, ces précieux conseils sont de Pierre Lefranc, conseiller technique chargé de l'information à l'Élysée. En 1962, il s'adressait à Alain Perfitte, tout juste nommé ministre de l'information, et ils ont été rapportés par ce dernier dans son livre « C'était De Gaulle » chez Fayard. C'était ça aussi le gaullisme. Hein. Aujourd'hui, nous allons visiter une partie de l'autre versant de la médaille. Ce qui reste, c'est bien sûr le géant devant l'histoire, celui qui a eu raison en 40 et en 62, mais le gouvernant De Gaulle était un républicain autoritaire. Ce n'était pas un dictateur, non, simplement, il avait sa part d'ombre, il ne faisait pas le sale boulot, il le faisait faire et ne s'abaissait parfois même pas à en entendre parler. « Faites ce qui doit être fait », disait-il, sans plus de précision, ce qui est bien pratique pour la conscience des grands hommes. D'accord, c'était une autre époque, d'accord, De Gaulle en 58 devait nous éviter une guerre civile. Mais quand on considère, comme c'était son cas, que la France est plus importante que les Français, alors bien des atteintes aux libertés individuels sont possibles. Sous De Gaulle, entre 1958 et 70, heureusement, il y avait le canard enchaîné, son indépendance absolue, sa tradition républicano-libertaire, ses plumes et ses fusains affûtés. Nous nous sommes rendus dans les locaux du canard enchaîné, rue Saint-Honoré. C'est le prolongement de la rue du Faubourg Saint-Honoré où se trouve l'Élysée. Et nous y avons été reçus par Claude Angély, une figure de ce journal. Claude Angély était étudiant communiste dans les années 50 et au début des années 60, avant de devenir journaliste et d'entrer au canard. Bonjour Claude Angély.
Bonjour.
Merci de nous recevoir au canard, dans les locaux du canard. C'est impressionnant pour un journaliste comme moi d'être dans les locaux du canard et on va faire une petite visite tout à l'heure du canard. Je voulais commencer par savoir quel est votre premier souvenir du général de Gaulle. Je crois qu'à la Libération, vous avez 13-14 ans.
Qu'est-ce que ça représente ? J'ai 13 ans.
Qu'est-ce que ça représente le général de Gaulle pour un gamin de 13 ans ?
Le général de Gaulle, c'était Londres, c'était Radio Londres, qui était brouillé par les Allemands, c'était des croix de Lorraine sur les murs, c'était aussi sur une villa du Tremblay, où j'allais jouer avec des copains, apparaître le nom de Stalingrad, au goudron. Alors je me suis renseigné ce que c'était. C'était simplement parce que les Allemands venaient de prendre la piquette et qu'il y avait une ville qui s'appelait Stalingrad, voilà. Mais sinon, De Gaulle, c'était un mythe, quoi. C'était même pour les mômes qu'on était, quoi.
Et après, quand il y a eu la descente des Champs-Élysées, fameux Te Deum, ça vous l'aviez
non,
vu ou c'est
non,
passé
Non, j'étais en banlieue, j'habitais le Perreux, j'étais en banlieue. Puis c'était les derniers Allemands qui partaient, hein, ils partaient par le Perreux pour aller à Meaux.
Vous les avez vus partir?
Oui, je les ai vus partir, derrière une porte cochère, on était planqués parce que...
Et vous étiez d'une famille communiste?
Non, pas du tout.
Parce qu'après, vous êtes entré au PC?
Oui. Non, mon père était pétainiste, Verdun, Pétain, puis il a fait la résistance à la fin, quoi.
On nous dit qu'en revanche, la Constitution prévoit le droit à l'indépendance pour les peuples d'Afrique noire.
Maurice Thorez, septembre 1958.
Si l'offre est sincère, pourquoi ne pas l'étendre au peuple algérien ? Chacun reconnaît que la guerre d'Algérie est à l'origine du drame actuel. Et la Constitution ne dit pas un mot sur l'Algérie, où la situation s'aggrave de jour en jour. Le Parti communiste français vous appelle à dire non à la servitude, non à la guerre, afin d'ouvrir une ère de prospérité, de progrès social et de paix, afin d'assurer l'avenir heureux de la jeunesse dans une France libre, forte et indépendante.
Et donc, début des années 60, vous êtes jeune et vous êtes aux Jeunesses communistes.
Oui, alors je suis entré aux Jeunesses communistes et le Parti communiste à l'époque, quand De Gaulle a pris le pouvoir, enfin a pris le pouvoir, a été élu quand même.
Tout ça est sujet à caution.
Le parti a dit « De Gaulle, c'est la misère, De Gaulle, c'est la guerre, De Gaulle, c'est le fascisme ». Bah, on trouvait quand même que c'était un petit peu forcé, quoi.
Mais on y comprenait... Même vous,
non, on n'y comprenait rien, oui. On n'y comprenait rien, on était trop jeunes. Mais tout de suite après le référendum et les élections, le Parti communiste a rectifié. Il a dit que ça avait été quand même un peu excessif de dire ces choses-là. Ça, c'était classique au parti.
Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps ?
Bah, il s'était passé une piquette. Le parti avait fait, je crois, 19%.
Ce qui, à l'époque, était une piquette pour le Parti communiste.
Oui, 19% en 58, alors qu'en 56, il avait fait 24,5%. La première fois où j'ai voté, je regardais dans les rues et je disais, il y a un électeur sur quatre qui a voté communiste. On se sentait très fort. Puis moi, j'ai adhéré au parti, disons, à cause des guerres coloniales, c'est ça. Bon, l'URSS, c'était loin pour nous. On comprenait pas bien. J'avais lu « Le zéro et l'infini » de Kessler. Et j'avais cru que c'était tout à fait la vérité. La dictature communiste, tout ça et tout. Mais j'ai adhéré au parti quand même. C'est-à-dire, vous voyez, le trouble, l'ambiguïté des engagements à ce moment-là, quoi. Et le parti n'a rien compris, n'a rien voulu comprendre au départ à De Gaulle. Et quand en 1960, c'est-à-dire 2 ans après, il y a eu déjà une petite révolte militaire et des pieds noirs avec les barricades à Alger.
La semaine des barricades.
La semaine des barricades. Ça nous a fait un peu réfléchir. Et il y a des camarades, des étudiants communistes ou des jeunesses communistes qui avaient des contacts avec des membres, un ou deux membres du bureau politique, qui, eux, n'étaient pas sur la ligne générale. On a été aidés dans notre réflexion. Et on a compris que De Gaulle allait doucement vers une fin de la guerre d'Algérie. Il en a fait 4 ans.
Dès 60, vous comprenez ça, oui. Dès la semaine des barricades.
On commence à réfléchir. Puis quand De Gaulle parle, les couteaux aux vestiaires, l'Algérie algérienne.
La paix des braves.
La paix des braves. Et quand il parle de l'autodétermination. Alors quand il parle de l'autodétermination, la direction du parti et nous, aux Jeunesses communistes, dans le journal des Jeunesses communistes, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est...
Oui, il propose un référendum avec 3 solutions, soit l'indépendance, soit une sorte d'association, soit l'Algérie dans la France. Donc là, effectivement, le Parti communiste est un petit peu embarrassé à ce moment-là.
Non,
il n'est pas embarrassé, lui il dit non.
Il dit non, parce que pour lui, cette autodétermination, c'est de la frime. Même y compris certains attentats contre De Gaulle. Une fois qu'il a prononcé l'autodétermination, la presse communiste... tire à boulet rouge, ce sont des mauvaises solutions, mais malheureusement pour le PC, Khrouchtchev fait écrire dans la Pravda l'approbation des soviétiques sur l'autodétermination.
Le Parti communiste change d'avis.
Et nous, à un moment donné, si vous voulez, on n'a plus cru à rien.
Oui, parce que vous n'étiez pas noté entre une opposition communiste qui était opposée à un homme qu'elle pensait être un dictateur, et puis une injonction venant de Moscou disant bah, il faut aller dans le sens de De Gaulle.
Non, mais nous, à partir de 60, moi j'étais permanent. J'étais aux Jeunesses communistes et on est devenu dissident alors que le mot n'était pas encore inventé. Et on était contre la direction du parti, contre Thorez, Marchais, tout ça.
Parce que vous étiez pour l'indépendance et donc vous vouliez voter oui avant que le parti le dise vraiment, avant que Khrouchtchev dise au parti bah, « il faut voter oui ». Vous étiez sur cette pente-là.
Non, mais on était, De Gaulle veut en finir avec l'Algérie, tant mieux, voilà.
Tant mieux, voilà, oui.
Voilà, bah, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais il n'est pas sur la ligne des généraux et des putschistes. Quand il y a eu en avril 61 le putsch des généraux, bah, on rigolait. On rigolait parce que ça nous donnait raison. Ça montrait qu'il fallait objectivement soutenir De Gaulle.
Inter, actualité.
Le couvre-feu a été fixé à 20h pour tous les Nord-Africains vivant dans l'agglomération parisienne. Pour la première fois depuis le début de la guerre d'Algérie, le FLN organise une manifestation de protestation qui durera pendant 3 jours.
Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Les CRS viennent de canaliser la manifestation. J'aperçois un musulman qui est allongé par terre sous une voiture. Les CRS tiennent des matraques et tiennent leurs fusils par leur canon et frappent.
Et on dit qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés.
Oui, c'est vrai.
Dans l'immeuble?
Non, pas dans l'immeuble, mais à côté, là, oui, partout, c'est cassé.
Qui a tiré?
Ça, je ne peux pas vous dire qui a tiré les premiers.
J'ai pas vu de musulmans armés, mais enfin, j'ai vu des gens qui tombaient et j'ai vu des coups de feu éclater.
Extrait du documentaire de Daniel Kupferstein, 17 octobre 1961, dissimulation d'un massacre.
La manifestation de Charonne, par exemple, c'est une manifestation qui, en fin de compte, était un soutien objectif à la politique de De Gaulle.
Oui, et pourtant réprimée par la police de De Gaulle.
Et de Papon.
Et de Papon, bien sûr. Mais la manifestation des Algériens avec une répression terrible, et puis Charonne, c'était quand même le préfet et donc De Gaulle. Donc c'est vrai que pour des opposants, ça devait être un bazar incroyable, oui, intellectuellement. Comment s'y retrouver?
Comment s'y retrouver, oui.
Donc sur le plan intérieur, vous étiez anti-gaulliste. Sur le plan extérieur, vous étiez obligé d'être finalement gaulliste.
Oui, gaulliste, non. Ou alors avec des guillemets. Mais si vous voulez, on n'était pas des idéologues, on n'était pas formés politiquement, culturellement. On réfléchissait, on était plutôt proche des communistes italiens qui, eux, étaient beaucoup plus ouverts. On était attentifs à des tas de choses, mais on ne lisait pas suffisamment. On n'avait pas assez compris dans quel monde on vivait. Et le côté particulier de De Gaulle, qui va être contre la guerre du Vietnam, qui va critiquer les Américains, qui va quitter l'OTAN, tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est troublant pour une conscience. Oui. Il avait finalement revêtu les habits d'une forme de tiers-mondisme et de distance vis-à-vis des États-Unis qui pouvait vous plaire, finalement.
Absolument, oui. Et bon, on a fini quand même par une majorité de permanents ou autres d'être exclus du parti, hein, comme je l'ai été. Voilà.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. 4 murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie 100 sous, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras. La longue vie que ton fils apprendra pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas. Cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût, moi. Quand elle ne sera plus, je te parie 100 sous. C'est vraiment très dommage, toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. À quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais. Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Tu le regretteras, de Gilbert Bécaud en 1965, après la mise en ballotage de Gaulle en 1965, justement, ses soutiens, dont Gilbert Bécaud, s'aperçoivent que le général n'est pas invincible. Mais nous ne sommes pas encore en 1965. Revenons à 58 quand le général arrive au pouvoir. Nous sommes toujours avec Claude Angéli et on explore les relations entre De Gaulle et le Canard Enchaîné.
De Gaulle, 2020. Thomas Legrand sur France Inter.
Dès 1958, les journalistes du Canard s'opposent au général. Le journal divulgue des informations précises qui accréditent la thèse du complot gaulliste pour prendre le pouvoir. Le général, depuis Colombey-les-Deux-Églises ou depuis la rue de Solferino, lieu de ses bureaux parisiens, regarde d'un œil informé et sans doute bienveillant se fomenter le coup d'État qui allait précipiter la 4e République dans le chaos. Des émissaires secrets du général se rendaient à Alger pour instrumentaliser la révolte de ses officiers, dont beaucoup étaient d'ailleurs des anciens de la France libre. Traîneaux ou Fressos, des journalistes républicains, parlementaristes, opposés à toute idée de république autoritaire, à la solde d'un seul homme, fut-il illustre, disent-ils ce mélange d'informations exclusives, de dessins ravageurs et d'éditoriaux érudits. De Gaulle lit le Canard et se demande chaque mardi soir « Que dit de moi le volatile ?» Le 19 mai 1958, lors d'une conférence de presse, il eut cette phrase culte en montant, une fois n'est pas coutume, dans les aigus. Il répondait à Maurice Duverger, constitutionnaliste critique, qui lui demandait s'il ne risquait pas d'attenter aux libertés.
« Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Ayais-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. »
Les dessinateurs et journalistes du Canard seront là tous les mercredis entre 58 et 69 pour rappeler aux lecteurs que mon général, dépeint en Louis XIV ou en Napoléon III, en Charles Quint, dénature la République. Deux chaînes De Gaulle, disent-ils pour souligner le corsetage de l'audiovisuel public. La presse populaire de l'époque est plutôt gaulliste, hein, hormis l'Humanité et les journaux d'extrême droite. Libération, dans sa version actuelle, ne verra le jour qu'en 1968. Et Le Monde, Balance, plutôt anti-gaulliste, proche de Pierre Manès France, hésite d'abord avant de soutenir le retour du général De Gaulle en 1958 pour éviter une guerre civile. Depuis le début, donc, le Canard est le seul à s'opposer et à traquer la moindre atteinte à la liberté, le moindre coup fourré des gaullistes et du sac. En 1958, quand De Gaulle revient au pouvoir, le Canard Enchaîné est un journal qui vivote.
Qui est un petit peu en sommeil.
En sommeil, oui.
Et l'arrivée de De Gaulle va réveiller le Canard et va développer son influence et sa vente. Parce que le Canard est républicain, le Canard est opposé à toute intervention de l'armée dans les zones du pouvoir.
Voilà, et en 58,
et De Gaulle est arrivé grâce à une insurrection limitée à Alger.
Oui, mais grâce à une insurrection militaire.
Oui, militaire.
Le Canard qui a été créé, on le rappelle, oui, contre Clémenceau, contre l'autoritarisme de Clémenceau.
Pas contre Clémenceau, non.
Non.
Le Canard a été créé contre la propagande.
Contre la propagande, mais oui, il s'est renforcé, il s'est installé dans le paysage politique, un peu contre Clémenceau, au moment où Clémenceau essayait justement d'installer un petit peu... Il était très républicain, évidemment, Clémenceau.
Oui, il était très
républicain, mais à un moment, il était un peu autoritaire. Le Clémenceau, oui, du début du XXe siècle, pas le Clémenceau, oui, parlementaire, mais le Clémenceau ministre, était un petit peu autoritaire, et c'est à ce moment-là que le Canard s'est installé contre, évidemment, la propagande et la censure. Là, il retrouvait, avec De Gaulle, peut-être...
Avec De Gaulle, avec la guerre d'Algérie, avec la torture, avec les menaces de putsch militaire, il y en a eu quand même un, et puis il y a eu la tentative d'assassinat de De Gaulle, et le gaullisme immobilier aussi, les affaires
bien sûr,
de
les affaires. Immobilier.
Quand je suis arrivé au Canard, ça a commencé, des articles sur les enquêtes réalisées par mes petits camarades sur le gaullisme immobilier, c'était extraordinaire.
Est-ce que le pouvoir faisait pression sur le Canard?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il n'y a pas les moyens de pression, il n'y a pas les complaisances nécessaires, il n'y a pas la publicité. Le Canard se vendait quand même, il vivait de ses propres fonds.
Le Canard a toujours été indépendant, donc la pression était impossible.
Oui, le Canard est possédé par les gens qui le font. Alors.
Le général de Gaulle avait publié dans ses mémoires...
Le journaliste Ernest Reynaud, une archivina du 4 juillet 1965.
Avait cité le Canard, ses mémoires de guerre. Il parlait de la presse à Paris et il disait, il y avait ce paragraphe, autant que je m'en souviens, le canon enchaîné comprend dans son équipe, dans sa rédaction, un certain nombre de pro-communistes, c'était en 1945, et de ce fait, il peut être considéré comme des journaux qui sont sous l'influence du Parti communiste. Et alors, quand j'ai lu ça dans les mémoires de Jean de Gaulle, j'ai protesté immédiatement dans le Canard et j'ai demandé à l'éditeur Plomb de rectifier. J'ai demandé une rectification en disant mais le journal Le Canard enchaîné n'a jamais été sous l'influence communiste, ni un journal du Parti communiste. Ça a toujours été un journal indépendant. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, dans son cabinet de guerre, comptait beaucoup de communistes. Ça ne voulait pas dire qu'il était sous l'influence de Moscou. Enfin, c'était pas, il n'était pas particulièrement stalinien, le général de Gaulle. Un jour, l'éditeur Plomb alors me fait appeler, m'envoie une lettre, me convoque et me montre une lettre du général de Gaulle qu'il avait reçue et qui disait, écoutez, si vous voulez, dans la prochaine édition, j'ai lu enfin les objections du canon enchaîné, dans la prochaine édition, eh bien, j'atténuerai enfin ce paragraphe et le canon enchaîné, dans l'édition suivante, n'était plus un journal du Parti communiste.
Alors c'est intéressant parce qu'on a dit que le général de Gaulle n'avait jamais réussi à faire changer une ligne au Canard enchaîné, mais le Canard enchaîné a réussi à faire changer quelques lignes dans les mémoires du général de Gaulle. Enfin, l'affaire de la bombinette.
Ah oui, parce que quand je suis arrivé au Canard enchaîné, j'avais remarqué qu'il parlait toujours de la bombinette, la bombinette. Alors j'avais dit tout à fait modestement à tout que je croyais quand même que c'était un petit peu... Il fallait nuancer un peu, la bombe nucléaire, l'armement nucléaire existait, c'est pas une bombinette. Bon, ça a mis un certain temps, puis finalement, c'est devenu parfois de la lutte contre l'armement nucléaire. Mais on ne l'appelait plus bombinette.
Et le général de Gaulle, c'est un personnage très facile à caricaturer. Déjà, il a déjà une tête de caricature lui-même, un nez proéminent, des oreilles... énorme. Les dessinateurs s'en donnaient à cœur joie.
Vous savez, Jean Co avait parlé du général de Gaulle en disant avec son air de vieux plutôt triste.
Le chien plutôt triste, oui, avec ses grandes oreilles, c'est vrai.
Une belle image. Moisan, qui illustrait la chronique La Cour de Roger Fressoz, qui signait André Ribaud, ça a été un des succès du Canard.
Quand De Gaulle est arrivé...
Le journaliste Robert Fressoz sur France Culture en 1990.
On s'est aperçu à la fois par des grands événements, mais surtout par de petits détails, que De Gaulle avait le personnage d'un nouveau Louis XIV et qui s'y complaisait. Ce qui nous avait beaucoup amusé, c'est, je crois, il y avait une crise à Alger, c'était au moment des barricades. Alors, De Gaulle était resté sur le pont jusqu'à tard le soir. Et puis, à 1h du matin, tombe une dépêche de l'arrêté. Le général De Gaulle a regagné ses appartements privés. Ben, ça faisait tout à fait penser à une phrase dans Saint-Simon, le roi. Un appartement. Et ben, j'ai pensé que ça pouvait être une manière de raconter la politique et par le travestissement comme ça et en essayant de retrouver un style d'époque, d'autant que par ce moyen-là on arrivait à dire beaucoup plus de choses, de choses audacieuses que par le moyen du style normal. De Gaulle a bien servi le Canard. Le Canard a un peu servi De Gaulle. Il vous desservit, je ne sais pas. Ben, on le dépeignait comme un roi autoritaire, majestueux. Et en politique étrangère, on dirait qu'il voulait tenir un rôle supérieur à ce qu'était l'importance de la France, ce qui est vrai. Il a impressionné les gens, il a été salué et respecté comme un personnage, mais pendant toute l'époque où il a été à la tête du pouvoir, je ne pense pas que l'importance relative de la France dans le paysage international ait augmenté, au contraire, elle a diminué, si on enlève toutes les apparences.
Alors, la Cour, justement, toutes les semaines, pendant le règne, on peut dire, du général de Gaulle entre 58 et 69, tous les mercredis, Le Canard tenait une chronique.
Une demi-page.
Une demi-page qui s'appelait La Cour. C'est un petit peu l'ancêtre de maintenant la page 2 du Canard, où il y a toutes, oui, les petites histoires, toutes les histoires de couloirs, de mœurs et puis de coulisses politiques aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rubrique qui, à l'époque, était très attendue par tous les lecteurs du Canard et qui faisait toutes les rumeurs de Paris?
Oui, mais ça a été, disons, une des grandes initiatives du Canard et un de ses succès, parce que ça tenait compte de la réalité politique, des jeux de pouvoir et aussi de l'extraordinaire présence à tout moment du général de Gaulle. Vous savez, Constantin Melnick, qui a travaillé dans le renseignement auprès de Debré et tout, avait expliqué dans un article du Monde que, au temps du général de Gaulle, on écoutait bien entendu les journalistes, les téléphones des journalistes, et même le directeur du Monde, Beuve Méry.
Il dit ça dans le Monde.
Il dit ça en après. Connaissance de cause.
Bien sûr.
Et après, naturellement.
Oui, parce que, bon, alors, pendant toute cette année.
Tout ça, de Gaulle n'était pas un personnage simple. Hein.
Bien sûr. Pendant toute cette année, on glorifie un petit peu le général de Gaulle. C'est l'année de tous les anniversaires. Et finalement, avec le recul, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un homme historique qui a compté dans la France. Mais il faut quand même se rappeler que c'était un pouvoir autoritaire qui utilisait des méthodes autoritaires, absolument, pas très démocratiques. Et le Canard en a été le témoin et peut-être l'un des seuls à pouvoir le raconter de façon très indépendante.
Il y a une initiative du Canard qui était excellente. L'Express s'était fait saisir parce qu'il y avait un article de Sartre sur la torture. Alors Clémentin, qui était rédacteur en chef du Canard,
au moment de l'Algérie, donc,
a décidé de photographier les pages saisies de l'Express, de les barrer de deux traits en disant « Quelle honte, ils ont osé écrire ça !» Et naturellement, tout le monde pouvait lire ce qu'on ne pouvait plus lire dans l'Express. Et les rieurs étaient du côté du Canard. C'était une forme de lutte contre la censure.
Mais le Canard n'a jamais été saisi ?
Non.
Jamais aucune poursuite judiciaire n'a pu atteindre ?
Non, il a été saisi en Algérie par les autorités militaires ou des choses comme ça, mais...
Oui, c'était difficile en Algérie de trouver le Canard, effectivement, avant 1962, et après aussi, d'ailleurs.
Mais on avait des correspondants en Algérie, qui compris l'un d'eux est devenu journaliste au Canard.
Pendant les années de Gaulle et les années qui suivirent, les années gaullistes, le Canard avait une cible tout indiquée, le SAC, Service d'Action Civique, une association de soutien inconditionnel au général de Gaulle, créée en 1960. En réalité, c'est une police parallèle qui recrute un mélange de truands et d'anciens résistants. Parfois, ce sont les mêmes. L'idée, c'est de combattre les nervis d'extrême droite, de l'OAS et les gros bras du PC. Ça deviendra, au cours des années 60-70, une officine très à droite, casseuse de grève. Voilà l'exemple même de la dérive de la gouvernance gaullienne, puis gaulliste.
Cette conception des polices parallèles, ça a été aussi contre le FLN, au moment de la guerre d'Algérie. Les mêmes gens du SAC ont pu lutter contre le FLN, ensuite, s'ils ont accepté, contre l'OAS et contre les communistes à tout moment. Quoi.
Voilà, ils passaient de l'un à l'autre d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des taupes un peu partout.
Je me souviens d'une discussion avec De Bizet, je lui dis comment vous, qui est patron du SAC, vous, à 25 ans, vous avez été médaille de la résistance, croix de guerre avec Palme, et en 1947, vous êtes dans un parti qui s'appelle le RPF, avec le général de Gaulle, et il y a plein d'anciens collaborateurs. Et il m'a dit, Angélie, quand on a devant l'armée rouge, on ne regarde pas qui est à côté de vous. Vous voyez, là aussi, c'était quand même des choses qui m'apprenaient un peu que la politique, c'est toujours un petit peu bizarre.
Et alors, vous aviez des relations avec De Bizet, mais en tant que journaliste ou en tant que...
Journaliste,
ouais.
Je l'ai vu à ce moment-là, parce que quand j'ai appris que le SAC était dans la lignée de Chirac pour empêcher Giscard d'être élu, et comme on avait sorti l'affaire des diamants, tout ça et tout, j'ai demandé à voir De Bizet, il a accepté.
Voilà, c'était pas votre source, un journaliste ne donne pas ses sources, mais bon, De Bizet...
De Bizet, c'était pas un informateur, c'était simplement un contact, comme je pourrais avoir un contact... J'ai pu avoir des contacts avec l'équipe Pasqua. Hein,
oui, ça permet de confirmer, de croiser des informations et d'avoir un contexte.
Il faut connaître tout le monde. Hein.
Bah oui.
Et jamais être complaisant et ne jamais les ménager.
Madame, fusée. Madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de Canadair. De ciel embrasé de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous. Dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don.
Bertrand Belin, glissé, redressé, et nous sommes toujours bien droits, nous, dans les locaux du Canard avec Claude Angéli, l'une des plumes du palmipède.
France Inter. De Gaulle 2020.
Donc Claude Angéli, ici on est dans le hall d'entrée de cet appartement, en fait les bureaux du Canard, et alors il y a sur le mur les dessins un peu emblématiques de tous les grands dessinateurs. D'abord, une fresque de Guy Lac.
Qui est le créateur du personnage canard. Toujours en titre. C'est lui qui a dessiné le petit canard qui est toujours à côté du titre du journal actuellement.
Et puis on a évidemment Cabu, Pétillon, Escarot.
Escarot, oui.
On reconnaît le Giscard de Escarot.
Oui, là c'est Moisan.
Et Moisan, le grand dessinateur de l'époque du général. Et alors, un magnifique dessin du général qui représente quoi?
Ben, De Gaulle...
En Napoléon III, oui. Visiblement. En Napoléon III, donc le III. Risque du bonapartisme.
Napoléon Ier. Dans Napoléon III, il a mal fini.
Ben, il y a une petite barbe comme ça, il lui a fait une petite barbe et une petite moustache qui ressemble plutôt à oui. Napoléon III. Et Pompidou, dont on ne voit pas les yeux, boursouflé, évidemment. Toutes les caricatures. Et puis...
Lap,
ce sont les années 70.
Oui.
Et alors ça, en haut, c'est qui? Ces deux fresques, là-haut, plus anciennes.
Meunier, Henri Meunier.
Henri Meunier, oui. Alors là, c'est plutôt les années 50.
45-50.
45-50, et on a une statue du général de Gaulle, marchant. Alors aujourd'hui, vous lui avez mis un masque, parce que au moment où on enregistre cette émission, on est en plein déconfinement. Qu'est-ce que c'est que cette statue?
C'est Mouget, qui est actuellement dessinateur au Canard, qui fait des sculptures et assez remarquables. Celle-ci, par exemple, qu'on a fait couler en bronze.
C'est le général de Gaulle, disons, il ressemble au de Gaulle de Moisan.
Un petit peu, mais il est plus près de la réalité. Il est moins caricaturé, même si, disons, son ventre proéminent...
Oui, le grand de Gaulle avec la ceinture assez haute comme ça, c'est un peu ridicule. C'est à la fois majestueux et un peu ridicule, comme était dépeint le général du temps de son moment un peu autoritaire au début des années 60.
Ah oui.
On sent ici dans cette pièce la grande liberté qu'avait le canard à l'époque. Et au-dessus, au troisième étage, il y a un bureau avec le trou dans le mur. Il est toujours là.
Je vais voir si on peut y aller. Isabelle, vous savez si...
Super. On a la chance, on peut monter dans le bureau. Dans le bureau du directeur.
Amen. C'est cool.
Donc là, on est à l'étage supérieur, dans l'appartement supérieur, où d'autres dessins emblématiques du canard, avec les grands dessinateurs.
France Inter, il est 8h. Le journal. Au Canard Enchaîné, on se pose des questions. Le dessinateur Escaro, l'un des administrateurs du journal, a fait une surprenante découverte cette nuit. Alors qu'il passait devant les futurs locaux de l'hebdomadaire satirique, un immeuble en construction rue Saint-Honoré, il a aperçu par hasard de la lumière. On me dirait que le décret n'était pas encore paru. Mais normalement, ça n'aurait pas dû être allumé. Quelque peu surpris, Escaro a raconté la suite de son aventure nocturne à François Charpentier.
Je suis monté, et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avaient soulevé des lattes de parquet, qui perçaient des trous dans les plafonds et dans les murs. J'ai demandé quel était le nom de l'entreprise, le type n'a pas été incapable de me le dire. Tout d'abord, il m'a dit qu'il venait pour le chauffage, qui marche depuis 15 jours d'ailleurs. Alors je suis redescendu, j'ai appelé le directeur, rédacteur en chef. 2 heures plus tard, on était sur place. On a rouvert les nattes de plancher, on a trouvé les trous.
C'était vraiment des micros.
Ah oui, il n'y a aucun doute.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les poser plainte ou...
Ah, ça j'en sais rien, on va voir ça, c'est pas... On va voir ça ce matin, là je vais aller au marbre. On va faire un numéro là-dessus, c'est intéressant.
Donc là, on entre...
Ouais, c'est le bureau du directeur.
Et alors, au fond, à droite, qu'est-ce qu'on voit? Un trou dans le mur. Avec une plaque. Une plaque, qu'est-ce qu'il y a sur... Est-ce que vous pouvez nous lire la plaque?
La plaque est une plaque en marbre et inscrivant « Don de Marcelin, ministre de l'Intérieur, 1968-1974 ». Ici, dans la nuit du 3 décembre 1973, des plombiers furent pris en flagrant délit d'installation de micro. C'est ce qui est mentionné sur la plaque.
Alors, il y a des guillemets à plombier. Hein.
Oui. C'est un souvenir du Watergate américain. Et le trou qui existe en dessous de la plaque, on l'a laissé ouvert, parce que c'est là, la nuit, quand nous sommes venus, après qu'Escaro ait découvert des lumières, et donc découvert la présence de faux cambrioleurs dans l'immeuble, on a découvert que des fils passaient par là pour rejoindre un studio dans l'immeuble à côté, où devaient être disposés des magnétophones pour enregistrer les conversations. C'est une opération complètement imbécile par un gouvernement de paranoïaques, un président qui l'était aussi, qui croyait pouvoir entendre, dans des salles aussi hautes de plafond, où tout résonne, les noms des informateurs du canard. Ça nous a fait une publicité oui. Extraordinaire.
Déjà, c'est ridicule parce que c'est pas dans le bureau du directeur qu'un journaliste vient dire le nom de son informateur. En plus.
Non, mais il y avait aussi des fils qui allaient... À l'étage en dessous.
Ah oui, techniquement, c'était une bêtise en plus.
Techniquement, c'était une bêtise. D'abord, on ne parle pas des informateurs comme ça. On est toujours un petit peu cachotiers. Et puis, c'était vraiment... À ce moment-là, ils nous accusaient de terrorisme journalistique, on les compte. Parce qu'on sortait des documents, parce qu'on sortait des choses, parce que ce gouvernement était englué dans des affaires. Il y a eu un titre du Canard qui était merveilleux. Le régime est toujours debout. Deux, plus loin, bout, B-O-U-E. C'est un des chefs-d'œuvre.
Un des chefs-d'œuvre du canard, qui était donc l'espace de liberté. Il faut rappeler qu'à cette époque, la télé publique était une télé d'État. C'était,
c'était
la voix de la France. France Inter, à l'époque, et même en 68, France Inter n'avait pas le droit, comme ses confrères Europe 1 et RTL, n'avaient pas couvert les événements de 68 de la même façon. Il y a eu des tas de grèves. Donc le paysage politique et le paysage médiatique étaient vraiment différents. Et le canard était cet espace de liberté pour tous les journalistes. En tout cas, c'était un exemple. Et aujourd'hui, on en a la trace ici, dans ce bureau. Merci beaucoup, Claude Angéli, de nous avoir fait visiter... Le canard aujourd'hui, C'est aussi un aspect, le général de Gaulle, c'est... Bien sûr, c'est l'anniversaire de tas de choses autour du général de Gaulle, de sa mort, de l'appel du 18 juin et de sa naissance, mais il faut se souvenir...
Le 18 juin, un fameux pari sur l'histoire.
Bien sûr.
Il a eu raison, mais c'était un pari terrible.
Bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on se souvient de l'aspect un peu noir du général de Gaulle avec vous, et quand même, donc, à la fin de cette émission, vous nous dites qu'il a eu raison.
Chapeau, quand même.
Finalement, le général de Gaulle, vous étiez anti-gaulliste.
Oui, j'ai jamais été gaulliste, mais chapeau.
Chapeau. Même en étant anti-gaulliste, aujourd'hui, vous dites chapeau.
Oui.
Merci beaucoup, Claude Angéli, de nous avoir accueillis chez vous, ici, au Canard, pour parler du général de Gaulle.
Au revoir, Thomas Legrand. Merci à vous.
Vous pouvez réécouter toute la série de De Gaulle 2020 en podcast. Merci à Claire Destacan qui réalise l'émission, à Yann Fressy qui a laissé traîner ses micros au Canard en toute transparence, à Karen Day et Claire Tesser pour les archives sonores, à Johanna Gabric pour la technique aujourd'hui.
Française, français.
On se retrouve dimanche prochain, juste après le journal de 13h.
Vive la République ! Vive la France !